quelques mots en général sur l'institution de ces nuits d'études dans les trois fêtes de pèlerinage, et c'est-à-dire la nuit de Chevilly chez Pessah, du septième jour de Pessah, celle de Shavuot et celle du septième jour de Sukkot, qui est la nuit de Rosh Hashanah Rabbah. Alors, par définition, et la nuit d'études qui est la plus connue, et disons dont l'usage c'est le plus répandu dans le plus grand nombre de communautés, c'est pratiquement un minhag commun à toutes les communautés, Ashkenazim, Sfaradim, Hasidim, Netemanim, c'est la nuit de Shavuot. Là, j'en dirai très peu de choses. Et je veux dire que la logique du rite va de soi. Il s'agit de la préparation au Matan Torah, et donc toute la nuit est consacrée à des textes concernant l'importance de la Torah, le moment qu'a représenté dans l'histoire humaine en général le fait que Dieu, sur le Sinaï, a confirmé que le monde a été créé, qu'il a un sens, et a révélé sa volonté pour l'histoire de l'humanité, avec pour objectif de réussir le sens qu'il a assigné à l'histoire du monde. C'est dit de façon très schématique. Et vous n'arrivez pas à entendre? Non, non, si vous fermez, on va tout de suite dédicacifier dans la tête. Et je vais essayer de parler de vous, mais enfin, j'espère que ma voix, comme d'habitude, arrivera à cette époque. Plus rapidement. Bien. Mais il faut un courant d'air parce que sinon. Pourquoi ça vous empêche d'écouter? Il y a du bruit dehors. La nuit de. Je vais y aller. Que la nuit de Shavuot est consacrée donc à la préparation de Matan Torah, qui est commémorée le lendemain matin. D'autre part, la nuit de Shavuot chez Pessah, c'est-à-dire le septième jour de la fête de Pessah, qui commémore le passage de la mer Rouge. Et là, il faut noter qu'à Pessah, il y a deux fêtes différentes. Les premiers jours de la semaine de Pessah commémorent la sortie d'Égypte à proprement parler, Yetziat Mitzrayim. Et le septième jour de Pessah, qui s'appelle Atzeret Pessah, la clôture de la fête de Pessah, est une fête pour elle-même qui commémore le passage de la mer. Donc c'est un sujet que nous étudions à propos de Pessah. Mais je pense aussi pour dire que et la nuit d'études de Chevilly chez Pessah est consacrée en général à des thèmes concernant la Emouna, la foi que le miracle est possible, en relation avec l'événement du passage de la mer Rouge qui a finalement rendu efficace la sortie d'Égypte. Tant que la mer Rouge n'était pas traversée, il y avait encore le danger que l'Égypte reprenne Israël sous son esclavage. Après le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte a été, je ne sais pas comment dire en français, mais effective. Et puis, la nuit de Rosh Hashanah Rabbah qui a été instituée un peu plus tardivement et qui n'est pas forcément connue dans toute la communauté, c'est la raison pour laquelle je voulais vous signaler cela en introduction un peu générale. Alors, chacune de ces nuits a un tikkun particulier, c'est-à-dire toute une liturgie particulière. Et avec les générations, finalement, on n'a plus été capable de simplement, en lisant tous ces textes qui concernent les sujets de la commémoration à chaque fois, d'être instruit du contenu. Et puis, nous sommes déjà dans des générations très orphelines, si on peut dire, où on choisit quelques thèmes de tous ces textes pour les étudier et les découvrir, les découvrir dans les étudiants. Je vous dirais ce qu'on avait l'habitude de lire. Je me souviens encore enfant, on lisait ça toute la nuit. Le soir de Rosh Hashanah Rabbah. C'est tout le Sefer Devarim, c'est-à-dire le cinquième livre de la Torah, qui est la récapitulation de toute la Torah pour l'entrée de la génération des fils qui vont entrer dans le pays du Canaan. puisque les quatre premiers livres, c'est la révélation de la Torah à la génération des pères, ceux qui sont sortis d'Égypte. Et le cinquième livre, le livre de Dvarim, c'est la récapitulation de toute la Torah pour la génération qui est entrée en Israël. Ensuite, on lisait tous les chapitres, plus un certain nombre de commentaires du Zohar qui ont pour objet les camps messianiques et aussi de commentaires de textes de la Gemara qui ont le même sujet. Et ceci était entremêlé des slichot du jour de Kippour. Je vais essayer d'expliquer tout cela, ça va faire un faisceau d'éléments qui vont s'expliquer tous ensemble. Ça depuis Yahbak. Et je dirai immédiatement d'ailleurs pourquoi. Et il en résulte donc que le thème principal de l'étude de Rosh Hashanah Rabba, c'est le thème messianique. Retenez bien cela parce que nous allons le retrouver avec corrélé. En particulier, la principale question qui se pose à propos de l'étude du livre de Kohelet, c'est pourquoi il a été institué, sa lecture a été instituée dans la fête de Sukkot. Alors, quelques mots d'introduction sur les Megillot. Vous savez que les Megillot font partie de la troisième partie du Tanakh, les Ketuvim. En général, on les appelle les livres de la sagesse, en général. Et à chacune des fêtes, des grandes commémorations qui nous relient aux événements fondateurs de l'histoire d'Israël, une de ces Megillot est récitée le Shabbat de la fête. Je vais vous le dire très brièvement. À Pessah, on lit chez Rachid. À Shavuot, on lit la Megillah de Ruth, l'histoire de Ruth, et Michelet. À Tisha B'Av, on lit Echa et Iyot, et j'ai rien oublié entre temps, non? Et à Sukkot, on lit Kohelet. Kohelet, c'est le livre de l'Ecclésiaste.
Et pour Rimoster.
Et pour Rimken, le livre d'Esther. Et je sentais bien qu'il me manquait Esther. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la tradition, pour faire correspondre à la fête de Sukkot, qui a son point culminant dans le huitième jour de fête après les sept jours de Sukkot, qui est Shmini Haatzeret, le huitième jour clôture de la fête, qui, comme vous le savez, en exil se dédouble, et il y a deux jours de Shmini Haatzeret, mais en Israël, ça coïncide, c'est-à-dire le deuxième jour de fête en exil, c'est Simchat Torah, alors qu'en Eretz Israël, c'est le jour de Shmini Haatzeret lui-même, que c'est Simchat Torah, que ça culmine dans cette perspective messianique, je parlerai plus abondamment tout à l'heure, on ait choisi de lire un livre qui apparemment est un livre pessimiste. Je dis bien apparemment, et vous devinez que toute l'étude aura pour objet d'évacuer cette apparence de pessimisme du livre de l'Ecclésiaste. Je vous rappelle simplement le verset de base qui est censé fonder ce pessimisme du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Vous vous rappelez de cela, en hébreu, c'est encore plus fort. Avec la valim, avec la valim, ma koele, avec la valim, ma koele, avec la valim, akol, avec tout est hevel. On traduit habituellement vanité. Et nous verrons tout à l'heure le sens du mot en hébreu, qui est encore beaucoup plus pessimiste apparemment. Et je vais essayer, en me basant sur un certain nombre de midrashim, d'inverser cette apparence et de montrer au contraire que c'est un livre optimiste et qui se relie très étroitement avec la signification de Sukkot comme fête messianique. Et alors je reviens donc à la première partie, c'est-à-dire la situation du moment de Tishri que un de mes amis qui signe David Yassine, c'est quelque chose qui s'appelle David Yassine, c'est son nom littéraire, mais Georges Lévit a appelé dans un de ses livres le rendez-vous d'octobre. Oui, comment on peut s'appeler, hein? C'est le rendez-vous d'octobre. Enfin bref, c'est dans le contexte judéo-français, ça tombe juste grosso modo. Et je veux dire, toute cette liturgie de Tishri, comment elle se situe dans l'ensemble du calendrier, ça nous donnera une introduction à l'abord du livre de l'Ecclésiaste. Donc j'espère que j'étais suffisamment précis pour l'introduction de toutes ces choses très importantes à comprendre ensemble. Je voudrais d'abord rappeler un principe important du calendrier hébraïque, en schématisant beaucoup. C'est qu'il y a dans le calendrier hébreu de l'année le chevauchement de deux années de commémoration différentes. La première année de commémoration, qui commence à Tishri, a pour objet l'envergure de commémoration universelle à l'échelle du monde tout entier, de la création tout entière. J'en donne qu'un seul point de repère, mais ça suffit déjà pour situer cette année qui commence à Tishri et qui donc se termine la fin du mois d'Eloul et qui dure toute une année. C'est le fait que le premier de Tishri commémore la création du monde. Et la création du monde concerne toutes les créatures. C'est un thème très connu que Rosh Hashanah, même Kippour, qui apparemment est le jugement, le jour du pardon et l'expiation pour Israël, et en été même le jour de Kippour, et la fête de Sukkot qui se situe à Tishri, concerne l'humanité tout entière, comme nous allons le revoir d'ailleurs dans plusieurs références. C'est une première année. Et s'inscrit dans cette année de Tishri, que j'appellerai l'année de Tishri, les événements qui concernent les grandes étapes de la réalisation du projet du Créateur à travers l'histoire universelle. C'est d'emblée à l'échelle universelle. Une deuxième année chevauche cette première année-là. Et elle commence le Rosh Chodesh Nissan. C'est l'année qui commence le mois de Nissan. Cette année qui commence le mois de Nissan va se terminer à la fin du mois de Hadar. Vous voyez donc qu'il y a 6 mois entre Nissan et Tishri. Tishri le 7e mois à partir de Nissan. De la même manière, Nissan est le 7e mois à partir de Tishri. C'est donc 2 années qui se chevauchent et qui, d'une certaine manière, se prennent en relais l'une l'autre. Retenons donc ce premier point. Il y a un thème important qui apparaît là, qui pourrait faire l'objet à lui seul d'une étude pour elle-même. C'est le thème que formulerait ainsi qu'il n'y a pas de fin d'année dans la conception du temps de l'année hébraïque. Si vous le comparez avec l'année civile, quel que soit d'ailleurs le calendrier, alors vous avez un jour de l'an où l'année commence, et puis vous avez finalement un 31 décembre où l'année finit, c'est-à-dire l'année se clôt sur elle-même. Et elle disparaît pour avoir fini. Elle est achevée. Dans le sens total du terme. Elle est achevée. Et inévitablement, ça renvoie, qu'on le veuille ou pas, tout ceci est assez schématique parce qu'il faut beaucoup nuancer suivant les différentes cultures qui ont parlé du temps. Chaque tradition a sa conception du temps, elle se reste là dans sa manière de structurer le calendrier. Ça renvoie au temps cyclique, qui est un temps spécifique, c'est-à-dire les choses recommencent. Les choses reviennent. Et vous retrouvez là les premiers thèmes du livre de l'Ecclésiaste. Nous revenons. Sans doute. Retenez tous ces éléments. J'ai l'habitude d'expliquer cela de la manière suivante. C'est que l'année du soleil a pour nom Shana, en hébreu. Shana, je vais vous mettre au tableau. J'ai appris le vrai envoyé. Et alors, l'année s'appelle Shana. Et ce mot de Shana a pour sens fondamental la racine qui va donner le mot de Shimuli. Shimuli, en hébreu, veut dire le changement. Mais c'est une définition très précise du changement. Et on va céder d'un autre mot qui se rattache un peu plus lointainement, mais à la même racine, c'est le mot de Shnaïm, Shemi, deuxième. C'est le changement qui peut devenir autre, qui peut devenir quelqu'un d'autre. Et selon la Midrash, ce temps de l'année qui se referme sur elle-même pour laisser la place, et qui disparaît pour laisser la place
à une année seconde, à une année qui vient après, c'est le temps qui mesure ou qui rythme l'histoire des nations, l'histoire des grandes civilisations, l'histoire des Homo Parolans, les nations du monde, les grandes cultures qui se sont succédées l'une après l'autre. Et il n'y a pas de doute que, du côté du Midrash, et nous sommes confrontés à cette histoire parce que nous situons à la fin de ce cycle de ces quatre grandes civilisations qui se sont succédées et que le temps d'Israël a traversé, qu'effectivement tout se passe comme si l'histoire c'est la succession de grandes années, comment dire, de grandes années de civilisation, de grandes années de culture, qui s'achèvent ou disparaissent et laissent la place à énormément de travaux d'archéologie, de thèses d'histoire, de tout ce que vous voudrez, dans les cimetières ou à l'université, et qui laisse la place à une autre civilisation. Avec chacune est chnia par rapport à la première. J'ai en tête un livre qui a été, au sein de mes études générales, qui a été très important. C'est un livre d'un Allemand d'ailleurs, qui s'appelle, un philosophe de l'histoire, qui s'appelle Schlinger. Il s'appelle Le déclin de l'Occident. Je ne sais pas si vous l'avez lu entre les mains. Ça, je vous conseille de le lire, si jamais vous le rencontrez. Et Oscar Schlinger, si je me souviens bien, a visé ce thème-là. C'est-à-dire, tout se passe comme si les structures du développement d'une grande culture sont fondamentalement les mêmes et c'est le style qui change. D'après la conception du livre de ce problème, c'est plus que le style qui change. Mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est le chemin. Il y a un changement radical, c'est le changement de lien pour nous. Je vais donner un adjectif en français, qui vient du latin et qui nous montre bien cette idée de chimie. Le changement n'est pas le changement qui assassine, c'est-à-dire le changement qui achève, qui finit. Et le chimie, c'est quelque chose qui est contraire à la sensibilité traditionnelle. Chimie interdit. Parce que le chimie mène à la disparition. Est-ce que c'est bien fait? Je reviendrai sur ce point parce que c'est plein de pièges de parler de ces choses-là avec une langue aussi nuancée que le français. Je suis bien fatigué. Mais à dire non répondu. L'idée du chimie, c'est un changement. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et en français, vous aurez le nom de Dieu. Je vais vous montrer en tant que femme.